This Sunday service, which is in a way the last service of our Christmas services.
Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun ce matin, en ce dimanche qui est le dernier culte de notre série de réunions de Noël. Et si vous voulez bien avoir patience avec moi, même si j'ai l'air un peu fragile, les Zoulous ont un mot impressionnant qui dit Mkutlan. Ça peut être la grippe ou quoi que ce soit d'autre. Donc si on dit en Zoulou, j'ai eu un peu de Mkutlan, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et ça suffit. Et pourtant, mon cœur déborde. Ces réunions m'ont vraiment béni. Et en plus de cela, nous avons une nouvelle merveilleuse ce matin. Peut-être que vous vous rappelez, samedi matin, nous avons prié pour deux paysans parce qu'ils souhaitaient la pluie. Et nous avons entendu que depuis entre hier et aujourd'hui, ils ont reçu 21 mm de pluie. C'est presque un inch, comme on disait avant. C'est 25 mm.
So let's just pray together.
Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ces réunions. Nous te remercions de nous avoir gardés à travers les difficultés, les tribulations et les moments difficiles. Nous te remercions pour la façon merveilleuse dont tu réponds aux prières et la pluie que tu as envoyée. Oui, Seigneur, s'il te plaît, continue à travailler et avoir pitié de nous. Et s'il te plaît, bénis cette réunion. Amen. Alors que je pensais à aujourd'hui, il y a un texte qui m'est venu à la pensée. Et je me suis dit, c'est pas vraiment un texte de Noël. Mais pour moi, ce texte apporte une richesse de Noël toute particulière. Et je me suis dit, est-ce que on est contraint de prêcher sur le texte de Matthieu, Marc, Luc ou Jean pour Noël? Est-ce qu'on ne peut pas trouver l'histoire de Noël ou le message de Noël dans toute la Bible? Alors, pardonnez-moi si je lis un texte différent ce matin. Dans le livre de Luc, au chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Arrêtons-nous pour un moment à cet endroit. Qu'est-ce que l'on célèbre à Noël? Nous célébrons quand Jésus est venu dans le bateau de l'humanité et qu'il est resté assis avec nous. Il n'est pas venu sur la terre juste vite fait et puis il est reparti. Non, il est venu sur cette terre et s'est assis avec nous, pauvres pécheurs, complètement dans les ténèbres. Il s'est assis et a expérimenté avec nous tout ce que nous expérimentons. La douleur, la persécution, les tentations, toutes ces choses, lui aussi les a expérimentées avec nous, parce qu'il s'est assis avec nous. Et mes amis, ce que nous célébrons ces jours, c'est quand il s'est assis pour la première fois au tout début, qu'il s'est mis dans notre bateau. Dis-moi, est-ce que Jésus s'est assis dans ton bateau? Est-ce que tu sais un endroit où Jésus est venu dans ta barque, dans ta vie, avec tous tes plans, avec tous tes rêves, avec tous tes challenges et tes difficultés? Un moment où il est venu et s'est assis avec toi dans ta barque? Peut-être tu ne l'as pas reconnu quand il est venu dans ton bateau. Peut-être que tu n'as pas reconnu que c'était lui quand il est venu. Pourquoi? Parce qu'il ne ressemblait pas aux gens que tu connais. Il n'était pas de ta culture. Rappelle-toi, Jésus était un juif. Mais il n'y avait rien d'autre qui pouvait faire que Pierre et les disciples le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Il n'était pas un pharisien ou un scribe instruit. Les Juifs étaient une une nation très théocentrique, si on peut dire, si on dit, une culture centrée sur la religion. Il n'y a aucune autre nation sur la terre où le caractère de la nation est centré sur la foi. Sur leurs croyances, sur leur... C'était la religion d'une personne qui le faisait un juif ou pas un juif. Alors évidemment, pour quelqu'un envoyé par Dieu, ils auraient cherché parmi les dirigeants religieux de l'époque. Parce qu'eux connaissaient les prophètes et ils savaient quand est-ce que Dieu viendrait. Mais Pierre avait des yeux pour voir et pour reconnaître que c'était lui le Christ, Jésus. Nous lisons cela dans le verset 5. Quand Simon a répondu, « Maître, il ne lui dit pas monsieur, il lui dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Pierre a eu des yeux pour reconnaître le Fils de Dieu. Peut-être il est venu dans ton bateau, mais toi, tu es aveugle, tu ne l'as pas reconnu. Parce qu'il n'est pas l'un de nous, il n'est pas l'un de ma culture, il n'est pas un de mon peuple, il n'a pas la couleur de ma peau. Il ne partage pas mes convictions politiques. La politique est devenue une religion de nos jours. Dans les années 80, l'indépendance de la Tanzanie, avec Julius Nyerere, après qu'ils avaient été une colonie d'Angleterre et qu'ils sont devenus indépendants, il a dit « Cherchez d'abord le royaume de la politique et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Vivons dans un temps où les gens recherchent le royaume de la politique. C'est leur centre d'intérêt de leur début et leur fin. Et si c'est ce que tes yeux cherchent, alors tu vas rater quand le Seigneur Jésus vient dans ton bateau et tu ne vas pas le reconnaître. Ces jours, nous avons entendu comment le Seigneur est apparu à Joseph, le père de notre Seigneur Jésus. l'ange lui a dit, cette fille, qui même si elle est enceinte, prends-la comme ta femme, parce que l'enfant vient de Dieu. Qu'est-ce qui a rendu Joseph obéissant? Une chose seulement. Parce que c'était un ange qui lui parlait. Mes amis, ne pensez pas que l'ange n'était forcément une figure brillante avec des grandes ailes qui lui apparut. Dieu peut venir d'une façon complètement différente de ce que tu attends, de ce que tu imagines. Avec Lot, les anges sont apparus comme trois hommes qui l'ont visité à Sodome et Gomorre. Les choses n'étaient pas forcément très claires, ou si claires, pour que les gens sachent si c'est un ange ou une personne humaine. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus est né, quand il a grandi, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et une voix a dit du ciel, « Voici mon fils bien-aimé avec qui je suis... avec qui je me réjouis. » Je ne sais pas la traduction. D'autres personnes, des fois, c'était juste un tonnerre. Donc c'était ceux qui pouvaient entendre la voix de Dieu, qui pouvaient reconnaître la voix. Peut-être les autres ont juste cru que c'était du tonnerre. Alors voilà ma question. Quand Jésus est entré dans ton bateau, est-ce que vous l'avez reconnu? Ou est-ce que tu penses que c'est qu'une personne qui vient de la foule? Il est venu sur la terre pour toi, pour moi. Est-ce que tu l'as reconnu? Ou est-ce que tu continues avec ta vie, tes rêves? Certaines personnes le reconnaissent quand il vient dans son bateau. Un homme de Dieu a dit, ce ne compte pas que Jésus, s'il était né des milliers de temps sur la terre, s'il n'est pas né dans ta vie, alors c'est comme s'il n'était pas venu. Si je peux rajouter, s'il n'était pas venu dans ton bateau, alors c'est comme s'il n'était pas venu pour toi. Est-ce que tu continues à adorer l'argent, tricher, voler, être jaloux de ceux qui ont de l'argent? Tu haïs les gens qui t'ont fait du tort, passant pendant des années à haïr quelqu'un parce qu'il t'a volé de l'argent. Tu veux être quelque part? Tu veux que tes enfants arrivent quelque part? C'est ça qui est important pour toi? Avoir une position, pas Christ le Sauveur. Alors peut-être, mon ami, il est venu, il s'est assis dans ton bateau et tu ne l'as même pas remarqué. Tu ne l'as même pas vu. parce que tu es occupé avec tes amis, ton parti politique, ta famille, ta femme, tes enfants. Voilà ton royaume. En vain, Christ est mort sur la croix pour toi, si cela est le cas pour toi. Mais nous lisons qu'il est venu et qu'il s'est assis. Il n'est pas seulement venu quand il est né à Noël, il s'est assis avec nous. Et pendant 33 ans, il est resté assis. Il a vécu avec nous dans ce monde. Pardonnez-moi pour de dire cela, mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être les personnes les plus difficiles à convaincre que Dieu a fait quelque chose et être reconnaissant pour l'œuvre de Dieu. Il y a un mouvement très fort de nos jours qui dit qu'on ne devrait pas célébrer Noël. Noël était une fête païenne pour le dieu soleil que les chrétiens ne devraient pas adopter. Nous pouvons être les plus incrédules. Nous nous frappons dans le dos. Nous critiquons les autres. Nous trouvons des fautes dans tous les sens. Et en fait, ce n'est pas vrai. La première référence du 25 décembre, qui était célébrée comme la naissance de Jésus, a été 202 ans après la naissance de Jésus. Hippolytus, un historien romain, a écrit par rapport à cela. Il a dit le 25 décembre a été célébré, la célébration de la naissance de Jésus a été pratiquée par les chrétiens, les premiers chrétiens. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a été changé en une fête païenne? 274. C'était la première fois que ça a été mentionné. Déjà, il le célébrait comme la naissance de Jésus. 274. L'empereur Aurélien a dit, nous le changeons. Elle l'a changé comme la célébration du solstice d'hiver. Mais cette notion de ne pas célébrer Noël se répand comme un feu de brousse parmi les chrétiens et cela détruit quelque chose qui est merveilleux et précieux. Nous sommes nos propres ennemis. Vous savez où est la plus grande mosquée du monde ? En Turquie ? La Hagia Sophia mosquée. Vous savez ce que c'était ? Avant que c'était une mosquée. C'était la plus grande cathédrale de l'Église orthodoxe chrétienne. Et ensuite, les musulmans ont conquis la Turquie. Ils l'ont remplacée par une mosquée. Qu'est-ce qu'on dit, nous, en tant que chrétiens ? Oh, quelle perte ! Les musulmans ont pris notre église. Mais écoutez-moi. Si c'était une mosquée dans un pays qui était devenu chrétien et qu'on l'avait transformé en église, les chrétiens auraient critiqué aussi en disant « Mais c'était une mosquée, on ne peut pas maintenant utiliser un endroit païen pour louer le Seigneur. » C'est un esprit de trouble qui anime les chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Je vais vous raconter une histoire, mais avant de commencer... Le Seigneur Jésus n'est pas seulement monté dans le bateau et s'est assis. Après quelque temps, il s'est tourné. Et il a dit à Pierre, « Pierre, va dans les eaux profondes maintenant. Et tu vas attraper des poissons. » Quelle était la réaction de Pierre ? Excusez-moi, monsieur, je suis un pêcheur, je fais ça depuis toute ma vie. Vous êtes un charpentier, qu'est-ce que vous en savez ? Si tu as reconnu Christ dans ta vie, dans ton bateau, si tu as accepté qu'il reste assis dans ton bateau, ça ne suffit pas. Il va commencer à t'instruire sur ce que tu dois faire. Et c'est par là que beaucoup de personnes perdent le chemin. Oui, ils savent, Jésus est dans leur bateau. Ils vont au culte tous les dimanches. Christ est dans mon bateau. Tous les dimanches, je suis assis dans mon bateau et je l'écoute parler. Mais c'est pas là qui est la clé. S'il est vraiment dans ton bateau, il va commencer à te parler et te dire « Fais ceci, fais cela ». Et peut-être que ça va aller complètement contre ta logique et ton bon sens. Ne te marie pas comme le monde. Marie-toi quand je veux, comme je veux, avec la personne que je choisis. Et mes amis, c'est seulement quand Pierre a commencé à obéir à Dieu, à Jésus, contre son bon sens, qu'alors il a pu commencer à avoir trouver des fruits de sa foi. Si seulement si tu obéis au Seigneur, sinon ça ne sert à rien que Jésus soit assis dans ton bateau. Si tu lui as permis d'être assis dans ton bateau, que tu l'as reconnu, premièrement, est-ce que tu l'as reconnu? Si tu lui as permis de te donner des instructions et te dire ce que tu dois faire, et alors est-ce que si tu lui obéis, alors ta vie commencera à porter du fruit. Sinon, tu deviendras comme un gros chêne qui donne des fruits de la. Au lieu d'être un chêne qui donne du fruit et de l'ombre, tu vas devenir un buisson épineux qui tend ses épines à tous ceux qui sont autour de lui. Que s'est-il passé quand le Seigneur a commencé à leur donner des ordres? Tout d'abord, ils ont attrapé le poisson et ensuite, ils ont laissé leur bateau et ils ont commencé à le servir, à le suivre. Tu peux être assis à l'église jusqu'à ce que tu sois bleu au visage, mais si tu n'es pas prêt à laisser tes idées, tes rêves, tes idéaux, alors tu vas ne servir à rien du tout. En quelques minutes, quand Jésus les a appelés à le suivre, leur vie a changé complètement. D'être un pécheur, ils se sont retrouvés dans une complète autre direction. Une toute autre direction en suivant ce que Jésus leur demandait. Et alors tu sauras la bénédiction que ce chêne a été. Alors je vais vous lire l'histoire. Il y avait un petit chêne qui poussait dans la jungle. Il était reconnaissant, il était content quand il avait des fruits, des petits glands. Et un jour, il y avait des ronces. Des ronces avec des petites baies rouges. Et alors que ce chêne grandissait de plus en plus, la ronce a commencé à parler. Regarde combien d'espace ce chêne prend dans notre forêt. Imagine, réfléchissez un peu combien de nutriments ce gros chêne prend de la terre que nous on pourrait avoir sinon. Pour Vous connaissez cet esprit, mes amis? Au lieu d'être reconnaissant pour le chêne, il a commencé à trouver des fautes. Et certaines plantes qui poussaient sous le chêne ont dit non, non, l'ombre de cet arbre nous aide à pousser. C'est un endroit frais, c'est un endroit plaisant pour nous. Et les animaux, dans un jour chaud comme cela, restaient à l'ombre et ça leur faisait du bien. Ils pouvaient se reposer. Et les oiseaux construisaient leur nid. Mes amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que cela veut dire de porter du fruit. Qu'est-ce que cela veut dire de porter du fruit? Ce gros chêne était une bénédiction pour tout le monde autour de lui. Tous les animaux, l'ombre, les oiseaux, les glands qui tombaient de là. Et si tu es en Christ, et que tu as Christ dans ton bateau, et que tu lui permets de faire ce qu'il te veut que tu fasses, ta vie sera comme un gros chêne, tu seras une bénédiction pour les gens autour de toi. Tu pourras leur donner du travail, une occupation, un salaire. Tu pourras leur donner à manger sur leur table, des vêtements. Tu pourras en prendre soin. Non, pas prendre des gens, mais donner aux gens. Alors voilà ce que les animaux ont dit aux ronces. Qu'ils étaient reconnaissants avec ce chêne qui leur donnait tant de choses. Mais la ronce n'était pas satisfaite. Et les ronces ne sont jamais satisfaites. Tout ce que je sais, c'est que ce grand chêne prend beaucoup de nutriments que j'aurais pu avoir. Est-ce que cet esprit n'est pas peut-être en toi, mon ami? Alors que tu passes par la vie, est-ce que tu es une bénédiction pour les gens autour de toi? Ou est-ce que tu répands ton cancer comme la ronce? La ronce a répondu. Tout ce que je vois, c'est ce que ce chêne répand ses branches comme si tout le monde lui appartenait. Qui est-ce qu'il pense qu'il est? Coupez-le. Coupez-le, c'est ce que je vous dis. Alors nous, les ronces, nous allons le remplacer. Mais tu oublies tout ce que la nourriture que les animaux reçoivent du chêne. Les écureuils viennent, ils en mangent. Et ils sont nourris par cela. Et regarde quelle bénédiction ils sont. Et tu sais ce que fait l'arbre? Il ne donne pas avec retenue, il donne généreusement. Mes amis, répondez-moi honnêtement. Est-ce que c'est votre cœur et votre esprit? Partout où tu es, la musique que tu écoutes, les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce qu'elles apportent la vie? Est-ce qu'elles donnent la vie généreusement? Je n'oublierai jamais un jour quand j'étais un jeune chrétien. Je travaillais un jour tard le soir avec un spécialiste à l'hôpital. Et vous savez ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué que l'esprit de la ronce était dans mon cœur. Comment j'avais remarqué cela? Ce que j'avais remarqué, que je ne disais pas de mensonge, mais je tournais la vérité un petit peu juste pour pas que ça me rende, que ça me, pour pas perdre la face. Et pendant sur plusieurs semaines, j'ai réalisé que cela grandissait dans ma vie. De plus en plus, je réalisais que là, c'était pas tout à fait la vérité. C'est presque la vérité, mais pas tout à fait. Tu l'as juste tourné un petit peu pour que ça te rende mieux devant les autres. Et je me suis dit d'abord, est-ce que je suis en train de devenir un peu bête ou fou si je commence à me parler à moi-même? Et après, je me suis rappelé, non, David a aussi parlé à son âme. David disait, prends courage, mon âme. Alors je me suis parlé à moi-même. Alors je me suis dit, ok Albi, si tu ne veux pas entendre, alors tu dois sentir, ressentir. C'est ce que mes parents disaient si je ne voulais pas écouter. Si tu ne veux pas écouter, alors tu vas le ressentir. Et une fois que là en bas, il m'avait réchauffé un peu, alors j'ai compris des choses que je n'avais jamais compris avant. Alors je me suis dit, alors Albi, si tu veux pas écouter, alors tu vas ressentir. C'est l'esprit de la ronce qui commence dans ta vie. À partir de maintenant, chaque fois que tu dis une demi-vérité, tu retournes vers cette personne et tu vas lui demander pardon. Et tu lui dis exactement quelle était la vérité. Un soir, j'étais en... J'étais de garde avec un spécialiste et il m'a demandé quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Et je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne sais plus si c'était parce que c'était tard et que je voulais rentrer tôt ou quelque chose d'autre. Mais en chemin à la maison, tout d'un coup, rappelle-toi ce que tu t'es dit. Maintenant, tu viens de redire un mensonge. Je me suis dit, oh non, je ne peux pas retourner maintenant. Minuit le soir. Peut-être qu'il dort. Je suis arrivée à la maison, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Même si je suis vraiment désolée de te déranger, je sais que tu es fatiguée, que tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais est-ce que tu te rappelles quand tu m'as demandé ceci et cela? J'ai répondu cela. Ce n'était pas la vérité complètement. Je l'ai retourné un petit peu en ma faveur. Mes amis, ça s'est passé 2 ou 3 tables et c'était fini. Je n'ai plus refait. Ça a disparu de ma vie. Parce que rappelez-vous, l'esprit de la ronce va essayer de pénétrer dans ta vie avec des petites choses comme cela. Le chêne donné volontiers, gratuitement, à tous les animaux. Je n'oublierai jamais ce que Oncle Erlo a dit une fois de ce pupitre. Quand président Reagan a été élu président des États-Unis. Il a dit, beaucoup de gens regardent les grandes compagnies comme des compagnies qui l'exploitent et qui prennent des gens et qui exploitent les pauvres. Mais ils ne réalisent pas que c'est les grandes compagnies qui sont les locomotives du train, qui donnent beaucoup d'emplois. Et que si les grandes compagnies avancent bien, alors tout va bien pour les employés et ils ont des meilleurs salaires. Mais si l'esprit de la ronce vient dans les gens, alors il est aveugle à tout cela. Quand l'arbre a dit à la ronce, mais je donne gratuitement, je donne généreusement à tous ceux qui sont autour de moi. Je leur donne tout ce que j'ai. La ronce a dit, oui, ben voilà, exactement, tu vois, c'est bien ce que je dis. Tu donnes pour rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on devrait donner pour rien du tout ? Quand les gens viennent vers nous, les ronces, nous les piquons avec nos ronces si quelqu'un veut prendre nos baies. Nous ne donnons rien pour rien. Oh mes amis, si je pense combien de personnes ont reçu tant de choses, ont tout reçu pendant des années pour rien. Ne parlez pas de la mission. Ne parlons pas de la mission. Qu'est-ce qu'en en est-il dans votre vie personnelle? Est-ce que Christ est dans ton bateau? Est-ce que tu écoutes encore ce bébé qui est né à Bethléem? Ou est-ce que tu le gardes dans ton bateau et tu continues là où tu as envie d'aller? Tu fais ce que tu as envie de faire. Alors voilà la grande tragédie. Cette chaîne était jeune. Et il a commencé à se demander pourquoi est-ce que je devrais donner tous mes fruits pour rien du tout? Pourquoi je devrais faire cela? Pourquoi je devrais donner un abri à tous ces animaux? Qu'est-ce qu'ils font pour moi? Je donne, que font-ils pour moi? Donner sans retour, donner sans attendre de récompense, ça c'est l'esprit de l'enfant Jésus. Et voilà la suite tragique de l'histoire. L'arbre a commencé à changer. Quand les animaux fatigués venaient se reposer sous ses branches. Le chêne a dit, « Enlève-toi de là. » Trouve un autre endroit pour te reposer. Enlève-toi de là. Et vous savez ce qui s'est passé? Petit à petit, la sève de cet arbre doucement s'est transformée en poison. Mes amis, je peux vous dire cela clairement, une fois pour toutes. Le plus grand privilège que toi et moi avons, si nous servons Christ, c'est de servir les gens, de servir Dieu, sans ne rien attendre en retour. C'est un privilège. Et si le diable t'a volé cette attitude et que tu commences à critiquer ceci, cela, cette personne, cela montre que tu es devenu une ronce. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Aucun aucune ronce ne puisse tourner notre sève en poison. Ce sera la fin de nous chrétiens. Et le chêne est devenu amer et il a dit, enlevez-vous de là. Je ne peux pas tout partager avec vous. Vous ne pouvez pas trouver un abri près de moi. Et l'arbre a commencé à sécher. Peut-être que Christ est dans ta vie. Mais si tu ne lui obéis pas, autant ridicule que cela peut paraître, ce qu'il te demande, alors ta sève va se transformer en poison. Et les saisons sont passées. Et l'arbre est devenu de plus en plus sec et plus en plus petit. Et là, le vent qui passait par ses branches, soufflait dans ses branches. L'arbre lui disait, le vent lui disait, donne, ou comment pourras-tu recevoir? Donne, sinon tu n'auras aucune bénédiction. Et alors que cet arbre était en train de se dessécher, son dernier mot a été, ses dernières paroles ont été, mais pourquoi devrais-je donner gratuitement? L'arbre était pourri jusqu'au centre. Mes amis, est-ce que le diable n'a pas été capable de répandre sa pourriture ? Tu te promènes en te vantant combien de jeunes filles tu as rendues enceintes. Est-ce que c'est cela qui ressort de ta vie? Tu as une douzaine d'enfants de tous les côtés. Et si tu penses que c'est cela qui te rend quelqu'un? Tu as perdu ton but en tant que en tant qu'être humain. Répands la bonté de Christ dans ce monde, en ce temps de Noël. Et laissez-moi vous dire ma deuxième et dernière histoire. On dit qu'il y avait une araignée. Et cette araignée essayait de faire une toile entre deux lampadaires. Mais ces deux poteaux étaient de chaque côté d'une voie de chemin de fer. Alors cette araignée est montée sur le premier poteau. Tu peux essayer de faire des choses dans la vie, mais c'est seulement pour toi, pour ta propre gloire, pour ta propre famille. Et le diable ne va pas seulement juste te donner de l'argent comme ça, il va te faire tuer pour cela. Et l'araignée est arrivée tout en haut. Elle voulait aller de l'autre côté. Elle a commencé à se balancer. Elle a essayé plusieurs fois. Finalement, elle a réussi à arriver de l'autre côté. Elle avait juste réussi. Juste, elle avait fini et un train est arrivé. Il a tout enlevé. L'araignée était patiente. Elle a essayé de nouveau. Chaque fois qu'elle arrivait de l'autre côté, un train passait et tout était parti. Finalement, l'araignée a réussi à trouver un moment où il n'y avait pas de train qui passait. Et elle a fait une magnifique toile d'araignée. Vous savez, les toiles d'araignée peuvent être très artistiques et magnifiques. Donc elles sont en cercle qui vient de plus en plus grand. Et s'il y a de la des petites gouttes d'eau le matin tôt, alors c'est magnifique, ça brille dans la lumière du matin. Et alors ces gouttes d'eau reflètent différentes couleurs des rayons du soleil. Donc elle avait finalement réussi à finir de construire quelque chose. Et malheureusement, ça n'a pas pris longtemps et un autre train est passé. Et dans une grande vitesse, il a tout arraché. Mes amis, les plans pour ce monde, les plans de Dieu pour ce monde sont comme ce train. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui arrêtera les plans de Dieu pour le monde. Peu importe le temps que tu passes à faire les plus belles choses possibles, tu peux attaquer le travail de Dieu par les médias, par la presse. Mais sache une chose aujourd'hui, les plans de Dieu seront comme ce train. Il n'y a rien qu'aucun homme ne peut faire qui arrêtera les plans de Dieu pour ce monde. Dieu ne te laisse faire ta belle toile d'araignée et que tes plans ne sont pas arrêtés ici dans cette vie. Que tu dépenses une fortune dans tes cheveux, dans ton maquillage, dans tes habits, dans toi-même et que tu es magnifique comme cette toile d'araignée. Et tu es brillant Tu as un diplôme, tes enfants ont des diplômes. Et un jour, quand tu seras dans le vent, le grand trône blanc de Dieu, le jour du jugement, Dieu va passer le train de sa volonté à travers ta toile d'araignée et tu verras que tu as perdu ton temps. Aussi belle et attirante que ta vie était, elle n'a aucune valeur dans l'éternité. Et je veux prendre cela plus loin. Le train de Dieu n'est pas juste la volonté de Dieu pour cette vie. Ce réveil est comme un train. Et mes amis, vous ne pourrez pas l'arrêter. Comment, quoi que ce soit que tu stratégises, combien de millions tu vas passer dans tout cela, le train du réveil va continuer. Ça ne suffit pas de dire « Oh, j'arrête mes toiles d'araignée parce que ça ne sert à rien. » Parce que le train de Dieu passe à travers. Et tu restes de côté et tu regardes passer le train. Et tu te dire, en regardant passer le train, bon, moi, je ne fais pas des toiles d'araignée qui passent, qui sont détruites à chaque fois. Non. Pour le réveil, tu as besoin de faire plus que cela. Il faut que toi aussi tu montes dans le train de Dieu. Il te faut la passion de Dieu, le rêve de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, dans ton cœur, pardon. Ça ne suffit pas de faire juste attention d'être pas dans le chemin du train. Non, tu as raté le but. Il faut que tu montes dans le train toi-même, que tu avances avec le train toi aussi. Et pour qu'on puisse travailler pour Dieu et avec Dieu, pour qu'il puisse atteindre son but en nous. Tu peux imaginer une araignée sur un train? Quelle en est l'utilité? C'est comment je me suis sentie quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis sentie pas à la bonne place, comme une araignée sur un train. Le désir de pécher était tellement facile, faisait partie de mon caractère, elle venait si facilement. Et d'être sur le train de Dieu, dans le train de Dieu, cela semblait être en conflit avec chaque fibre de mon âme. Et je me rappelle souvent, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être un chrétien, tout en moi aime le monde. Je n'y arriverai jamais, je n'appartiens pas ici. Et le Seigneur ne m'a pas dit, oh, je suis désolée. J'ai ouvert ma Bible un jour quand je me sentais dans cet état. Et le texte que Dieu m'a donné, c'est bien bon pour un jeune homme de porter son fardeau dans sa jeunesse. Je me suis dit, mais Seigneur, je pensais que tu allais effacer mes larmes. C'est tout ce que tu peux me dire? C'est bon pour un jeune homme d'être sous le joug de son fardeau dans sa jeunesse. Et Dieu m'avait donné ce désir de faire partie de ce réveil où Dieu était à l'œuvre. Et je suis venue ici comme un jeune homme. J'étais là ici pendant 6 mois à peu près. Un autre jeune homme est venu aussi de l'université de Stellenbosch où on était tous les deux de la même qualification. Moi, j'étais un peu timide. Ne te mets pas en avant, laisse les gens. Ma mère m'avait enseigné de ne pas me mettre en avant, de laisser les gens m'inviter. Et cet autre frère qui était avec moi était complètement à l'opposé. Quand le pasteur Stegen allait prêcher quelque part avec la chorale, j'attendais qu'ils m'invitent pour aller avec eux. Non pas cet autre jeune homme. Il allait vers lui et lui dit, est-ce que je peux venir avec? J'entends que vous allez prêcher. Et le pasteur Stegen disait, oui, bien sûr, tu peux venir avec nous. Et vous savez ce qui s'est passé dans mon cœur? D'oublier tes propres problèmes et ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Le train du réveil de Dieu avance. Si tu restes au bord et que tu attends d'être traité d'une façon particulière, le train va passer et va te laisser là au bord et tu n'iras nulle part. Tu sais quelles sont les plus grandes causes du péché dans une vie, dans la vie d'une personne? Pas forcément un gros péché. Parfois, c'est juste parce que ça va contre ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, Albi, si tu veux faire partie du réveil, il faut que tu grimpes sur ce train, sautes sur ce train, sinon tu vas rester en arrière. Sinon, tu ne goûteras pas la douceur de ce que Dieu veut faire et les miracles que le Seigneur est en train de faire. Parmi les noirs et les blancs. Et vous savez ce qui a été pour moi lumière d'alarme la plus stricte quand j'ai vu le pasteur Stegen. J'ai vu un homme en lui qui montait sur le train de Dieu, qui sautait dans le train de Dieu, qui payait quoi que ce soit que ça lui coûte pour faire partie de ce travail de Dieu. En tant que dirigeant, il n'a pas essayé de s'arranger des situations faciles ou confortables. Non. Il laissait tout. Il donnait tout, quel que soit le prix que Dieu lui demandait de payer. Et il a réalisé la dureté, la difficulté de rester dans le travail de Dieu, et il a payé ce prix. Et c'est cela qui m'a fait réaliser, tu ne changeras pas ce train, Albi. Soit tu sautes dessus, ou alors tu vas rester en arrière et tu vas rater le coach. Est-ce que tu as été prêt à sacrifier tout pour être sur le train de Dieu? Quand Christ est venu dans ce monde comme un petit bébé, il est venu pour être dans le plan de son Père. Prendre sa place dans le plan. Il a dû apprendre l'obéissance. Est-ce que tu peux imaginer cela? Il est Dieu lui-même. Il est fait partie de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu lui-même a dû venir être dans mon bateau. Et il a dû apprendre à l'obéissance sans péché. Il a sauté dans le train de Dieu. Quoi que ça lui coste, l'humilité, l'humiliation, la moquerie, les coups, les injures, la souffrance, il est monté dans le train de Dieu. Malgré le fait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même. Mes amis, est-ce que vous voulez rester et faire les choses de votre propre façon? Alors voilà ma question pour vous. À quel groupe est-ce que tu appartiens? Le groupe qui reste assis et qui râle parce que sa toile d'araignée fait que de se faire arracher? Ou le groupe de personnes qui sont ennemies du train de Dieu, qui murmurent, se plaignent, ou le groupe qui a donné sa vie pour le plan de Dieu, pour être utilisé comme Dieu le voudra. Il y a plus de 2000 ans, il est venu dans ce monde. Il est monté dans notre bateau et par cela, il a accepté d'être dans le train de Dieu et de prendre la volonté de Dieu. Et voilà ma prière. Seigneur, qu'il se passe ce qui doit se passer. Fais-moi grâce que je reste dans ton train. Aussi inutile, insignifiant que je pense que je suis. Je suis là où tu veux que je sois. Mes amis, avec le Covid et toutes ces autres choses, ne perdez pas espoir. Avec tous les challenges, les finances de notre pays, les finances du monde, ne perdez pas espoir. Le train de Dieu continue là où il veut aller. Et quelque effort qu'il soit pour essayer de stopper ce train, des gens, de pays, de gouvernements, de rois, n'y feront rien pour arrêter le plan de Dieu. Il achèvera son plan. Il accomplira son plan. C'était la grande bénédiction de Noël pour moi. Quand j'ai entendu ces jours, pendant les réunions, quand j'ai entendu comment les anges sont venus chanter aux bergers, je me suis dit, Seigneur, tu avais atteint un point dans l'humanité où il n'y avait plus rien qui pouvait nous aider. Des hommes, grands hommes de Dieu étaient passés. Le roi David est venu et parti. Des prophètes étaient venus et repartis. L'homme était mort, perdu. Il n'y avait seulement un espoir. Le seul espoir ne pouvait venir que du ciel, sans l'interférence de mains humaines. Et Dieu a envoyé ses anges pour dire paix sur la terre, pour toute l'humanité. C'était comme si Dieu disait: tu n'as plus aucun espoir. Je te donne l'espoir. J'envoie ma paix pour toi. Que Dieu nous donne la grâce d'être fidèles.
What a wonderful message.
Quel message merveilleux. Nous pourrions rester assis et écouter. Nous remercions Dieu d'avoir donné à son serviteur de telles paroles. On pourrait dire: ah, docteur, peut-être que tu pouvais avoir le Kutlane, donc c'est quelques formes de maladie qu'on peut appeler, que tu puisses l'avoir de nouveau pour nous apporter de telles paroles. Mes pensées sont retournées en arrière en pensant aux années quand on s'est rencontré avec le docteur. Comment moi aussi j'étais enrichie pendant ces années. Cet enfant, Christ, est venu pour amener la lumière. la vie. Et comme nous avons entendu, il est aussi Dieu. Et il veut être Dieu dans ma vie et dans ta vie. Nous ne pouvons que prier et remercier Dieu pour ces réunions que nous avons pu avoir en temps de Noël. Et nous remercions ceux qui ont été touchés par le Seigneur pour mettre en place cette conférence, ces réunions. Et que Dieu continue, nous le supplions. Que son travail, son œuvre, son esprit continue à travers ces ténèbres, d'amener la lumière et la vie, comme ce train dont nous avons entendu parler. Je pensais à notre frère qui nous a apporté la parole et je me suis dit, je n'aurais pas honte d'avoir un père comme lui. Si tu as un père qui peut parler de telles paroles, tu es un privilégié. Et c'est bien triste. Et c'est bien terrible si tu négliges ce privilège. Oui, cet enfant Christ est venu à cause de l'amour du Père pour nous. Et on nous apprend beaucoup de choses par cet enfant Jésus, par rapport à notre attitude, l'un envers l'autre, envers nos parents, que nos cœurs puissent être unis, que Dieu dans le ciel puisse avoir le verdict final. Et qu'il soit satisfait. Nous remercions Dieu. Et que son esprit soit rallumé, que tu sois un enfant, que c'est la première fois que tu te repentes, que tu reçois cet enfant dans ton cœur, alors traite-le avec honneur. Traite-le comme le Fils de Dieu. Nous voulons prier. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles que tu as données au cœur de ton enfant par lesquels nous avons pu être bénis. Et par cela, nous voyons que tu es la vie, la vérité, la parole, la lumière, et que tu es venu pour habiter au milieu de nous. Nous te prions, Seigneur, pour des cœurs souples, des cœurs volontaires qui entendent ta parole et ton appel et qui laissent leurs rêves, leurs idéaux poursuivre ton appel. Et qui t'a permis de t'asseoir dans son bateau et d'écouter tes instructions. Et le cœur obéissant que tu avais. Seigneur, en vérité, tu es venu à notre niveau, ce n'est pas trop dur. Nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices ou d'aller jusqu'au ciel. Toi, tu es venu à notre niveau, à nous. Rends-nous humbles et capable de l'appel que tu nous as donné. Sois avec nous, s'il te plaît. Alors que nous allions d'ici pour être des vases pour ton utilité. Que nous puissions être ce que toi tu veux que nous soyons. Bénis ceux que tu as mis en place, que tu as choisi pour diriger. Continue d'inspirer. Nos dirigeants qui ont été prêts à tout donner pour toi. À toi, Seigneur, le roi à jamais. Dans notre cœur, pour ta gloire, au-delà de ce que nous pouvons attendre ou demander. Amen. Merci et que le Seigneur vous garde.